Bonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image. Toujours une heure de cinéma à Radio Centre-Ville. Guy Ménard, animation, accompagné de Robert Daudelin. Bonjour, Robert.
Bonjour, Guy.
Donc, nous avons une émission aujourd'hui que nous aimons beaucoup, hein? Parce qu'on aime ça recevoir des gens que,
pour lesquels on affectionne. Comme l'automne est vraiment arrivé, il faut commencer de bon pied.
De bon pied. Et le bon pied, c'est de recevoir Marcel Jean.
Hein? Par exemple.
Qui est directeur conservateur de la Cinémathèque québécoise.
Donc, j'ai des cols pour lui.
T'as des cols?
Oui, oui.
J'ai bien hâte de voir. Donc, ils vont nous parler finalement de la programmation de septembre et d'octobre à la Cinémathèque québécoise. Et pour le premier segment de l'émission, nous recevons Julien Illy. Bonjour, Julien.
Bonjour.
Bonjour, Julien.
Afin de parler de Soleil Noir, qui a pris l'affiche hier à la Cinémathèque et également au Cinéma Moderne.
Au parc et au beau bien
au
également.
Au parc et au beau bien, puis au clap dans les jours qui viennent.
Oui, 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 dès aujourd'hui au clap.
J'espère qu'il va aller à Sherbrooke aussi, puis à Rimouski, puis sur la côte nord.
Il y a déjà une représentation prévue à Rimouski, je crois, le 19 septembre, si je ne me trompe pas.
Parce que c'est un film que tout le monde devrait voir. C'est un film, pas seulement parce qu'il parle d'une situation dont on a des échos de temps en temps à travers les nouvelles à la télé ou à la radio ou dans certains journaux, mais parce que son propos est beaucoup plus large que ça. C'est un propos sur la violence, d'où vient la violence dans une société aussi formidable que le Mexique, c'est un pays formidable, mais vous êtes là pour en témoigner. Je pense que c'est un pays que vous aimez beaucoup, que vous avez beaucoup fréquenté, et tout à coup, vous décidez d'en parler, mais sous l'angle de ce phénomène choquant, de cette espèce de violence culturelle dans le Mexique.
Oui, la violence culturelle, je ne suis pas sûr, on pourrait y revenir, mais effectivement, c'est un pays auquel je suis très attaché. Ça fait des années que j'y vais, mais disons de façon assidue depuis une dizaine d'années, au point que souvent je considère la ville de Mexico comme ma deuxième maison. J'ai mes attaches, plein d'amis, tout ça. Donc malgré toute l'horreur qui se passe dans le pays, j'y suis très attaché. Puis je pense que c'est quand même la raison principale qui m'a poussé à faire le film. C'est que j'ai vu au cours des années se détériorer la situation de façon assez sinistre.
C'est un projet qui a été longuement mûri. Hein. C'est pas un truc là, on décide pas de ça du jour au lendemain. Hein.
Non, non. Puis on a le temps de se demander si c'est une bonne idée. Ça, oui, je pense que j'ai eu l'idée, je dis souvent, ça remonte à une vingtaine d'années, quand j'ai eu connaissance la première fois des assassinats de femmes dans le nord du Mexique, Ciudad Juárez. Déjà, parce que j'imagine, comme tout le monde, ça m'a choqué. Mais en tant que cinéaste, je me disais qu'il y avait matière là à faire un film, parce que je voulais savoir, évidemment, parce qu'on ne savait rien. Je pense qu'on sait toujours rien ou très peu de ce qui s'est passé. Et puis, je pense que sur le plan cinématographique, il y avait l'espace, le désert, le décor était planté, il y avait vraiment une idée. Si j'ai mûri l'idée pendant longtemps, il y a plusieurs raisons à ça, mais déjà parce que je pense qu'il y a 20 ans, je n'avais pas du tout la relation que j'ai aujourd'hui avec le Mexique, donc je me sentais peut-être presque un imposteur. Je me disais qu'il y avait d'autres cinéastes mieux placés que moi pour en parler. Et donc, les années ont passé, puis à un moment donné, là, je me suis lancé. Ouais.
Au générique, il y a le nom de Sergio González Rodríguez, qui a été un référent important dans votre démarche.
Oui, oui, vous avez tout à fait raison, mais c'est non seulement un référent, c'est un modèle et c'est vraiment le détonateur. En fait, son livre, « Des os dans le désert », donc des comme des os, hein, des OS, des os dans le désert, qui est la première enquête, je dirais, d'envergure qui a été faite, je pense qu'il a écrit en 2001 à peu près, 2000-2001, sur les féminicides de Ciudad Juárez. Et je l'ai lu dans l'avion qui me menait de Montréal à Mexico il y a peut-être 5 ans. Et je passais presque au travers de cette brique de 600-700 pages. Et en sortant de l'avion, j'avais qu'une idée, c'était essayer de rencontrer Sergio González Rodríguez. Sachant que ça allait être difficile parce que c'est c'est quelqu'un de très connu et donc qui n'est pas facile d'approche, mais surtout il avait été victime d'au moins deux tentatives d'assassinat. On l'avait laissé entre autres une fois pour mort dans un terrain vague de Mexico, donc c'était des menaces très claires à son endroit pour qu'il arrête de faire ses enquêtes. Et j'ai réussi à le rencontrer grâce à un ami éditeur à Mexico. Ça a été compliqué, un peu laborieux. Mais la rencontre avec lui a été déterminante. Je lui ai parlé de mon idée de faire un film au départ qui allait se concentrer plutôt sur les féminicides. Mais c'est lui qui m'a dit, tu sais, maintenant, au-dessus des femmes, dans toutes les régions du Mexique, et surtout, il y a toute forme de violence maintenant, il y a toutes les formes de violence qui ont cours dans le pays. Et donc, je répète souvent ce qu'il m'a dit, mais il m'a dit, tu risques de te casser la gueule, mais tu dois le faire. Alors, j'ai pris ça comme un laissez-passer.
Et ce qui est intéressant dans votre film, parce que je pense qu'il faut le mentionner, hein, c'est un film sur la durée. Donc, on parle de 150 minutes de travail, de montage cinématographique ici. C'est de vraiment réussir à rentrer à l'intérieur un petit peu de cette peur. Oui, il y a la violence, mais comment cette violence engendre la peur? Il y a 6 chapitres qui nous permettent, je veux dire, de circuler, je dirais, à travers cette peur-là et de voir effectivement toutes les formes de violence. Parce que, oui, la Ciudad de Juarez, on connaît ce qui s'est produit avec les femmes, mais moi, j'ai découvert plein de choses dans votre film parce que finalement, oui, il y a des gangs de rue, et narcotrafiquants, même des jeunes qui s'amusent à jouer finalement avec la mort. Et donc, effectivement, on constate à quel point, je veux dire, la mort rôde un peu partout, je veux dire, dans certains quartiers, certaines régions, je veux dire, du Mexique.
Oui, parce qu'au premier abord, on la voit pas nécessairement. C'est le plus fascinant du Mexique, c'est qu'on peut aller y passer du temps formidable, ou même des Mexicains peuvent vivre tout à fait normalement. C'est comme si ça se passait dans des mondes un peu parallèles. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais c'est très proche de vous. Vous pouvez marcher dans une rue, puis vous passez devant une maison qui a l'air normale, mais en fait, ça pourrait être ce qu'on appelle une casa de seguridad, c'est-à-dire ce sont presque des prisons où on enferme des jeunes qu'on a kidnappés. Donc, il y a cette espèce de phénomènes assez particuliers au Mexique, cette réalité où ça se voit pas partout. Mais effectivement, le moteur premier du film, je décris Soleil Noir comme un film sur la peur. Et d'ailleurs, c'est quand, lors de ma première rencontre avec Sergio González Rodríguez, quand on s'est quitté, c'était à une époque où il se sentait, les menaces étaient revenues. Il se sentait menacé encore de façon... Il était sûr d'être suivi, tout ça. Et donc, quand on s'est quitté, je l'ai regardé marcher, s'éloigner dans la rue, et j'ai eu l'impression de voir un peu comme une bête traquée qui marchait dans la rue, qui regardait autour de lui pour voir s'il n'était pas suivi. Et c'est tout de suite là que j'ai eu l'idée de faire un film sur la peur, sur cette peur qui accable les Mexicains. Puis aussi, j'ai même eu l'idée formelle de filmer les gens souvent de dos, près de la nuque, pour qu'on ressente cette peur.
Ça va jusqu'à la fin, parce que le dernier personnage, celui dont la femme et la fille ou les enfants sont rendus à Mexico parce qu'ils ont trop peur de rester dans leur bled, lui, il est complètement traqué. Hein. C'est l'homme traqué, là, par excellence.
Tout à fait. C'est Mario qui s'appelle. Mario est un... Effectivement, il est complètement habité par cette terreur. On a passé une grosse semaine, je dirais, dans son village. Et je peux vous dire que nous aussi, on sentait cette peur. C'est vraiment terrifiant de savoir, de vivre dans un lieu comme ça, qui en apparence a l'air tout à fait paisible et normal, mais où les gens disparaissent sur les routes de façon presque quotidienne, en tout cas régulière.
Et votre film, pour moi, vous l'avez mentionné un peu, hein, il y a ce choc, je veux dire, physique. Il y a un choc sensoriel, parce que dès les premières images du film, oui, on parle de la peur, mais on parle aussi des odeurs. Hein. C'est comme si vous vouliez réussir à nous faire ressentir comment ces gens-là sont pris dans leur propre bulle et sentent la mort un peu partout. Et il y a un choc aussi esthétique, parce que vous avez décidé de le filmer en noir et blanc, en 4/4, hein, donc dans une image plus carrée, enfin, comme donner l'impression finalement que ces personnages sont enfermés, hein, dans leur quotidien. Donc, il y a beaucoup de chocs qui s'accumulent et qui font qu'en tant que spectateur, on est captivé par ce qu'on voit.
Oui, je pense que mon intention, c'était de donner le vertige au spectateur. Puis, bon, ça, dans la durée aussi, c'est sûr que des fois, j'entends que le film est... Les gens sont surpris de la longueur. Mais on ne peut pas faire un film sur la démesure criminelle dans une durée autre. D'ailleurs, ce n'était pas notre intention au départ de faire un film d'une heure, de 2 heures et demie. Mais au tournage.
C'est le sujet qui vous l'a
imposé. Oui, le sujet. Puis au tournage, je suis rentré à Montréal au montage en sachant très bien que je ne m'en tirais pas en bas de 3 heures. Enfin, puis là, finalement, on l'a quand même réduit parce que c'est difficile de lancer des films, déjà des documentaires au cinéma. Alors en plus, ils font 3 heures. Ceci dit, je pense que les commentaires que je reçois le plus souvent, c'est que les gens me disent « Ah, j'étais un peu craintif que ce soit long, puis finalement, j'ai pas vu le temps passer. » Donc
mais il n'y a aucun problème, hein, parce que le film vient nous chercher, puis on n'est plus capable de se défendre face aux propos qui est tellement fort. Puis une chose qui est importante aussi, vous l'avez déjà signalé en début d'entretien, c'est qu'on démarre à Ciudad Juárez, mais on va dans d'autres États. Il y a 5 États,
6 en fait,
ou 6 au total, qui sont couverts par le film. Et ça aussi, ça fait partie du côté terrifiant de l'entreprise. C'est pas un lieu, c'est pas la frontière nord qui est redoutable. Je veux dire, le jeune journaliste qui vous amène au bord d'une rivière, on est à quoi? À 30 kilomètres de Mexico à ce moment-là. Puis il dit, ici, c'est la pire place, là. Vous êtes au plus redoutable.
Oui, Ecatepec, ça s'appelle, qui est, je crois, la plus grosse municipalité du Mexique. C'est une énorme banlieue de Mexico, assez terrifiante. Mais oui, je pense que c'était important de montrer. Je crois que trop souvent, on résume la violence au Mexique à ce qui se passe dans le Nord, alors que maintenant, la violence, elle est vraiment partout, même dans les lieux très touristiques que les Québécois connaissent, comme l'État du Yucatan. Je ne parlerai même pas d'Acapulco, parce que ça fait déjà 5, 6, 7 ans, 8 ans que c'est un endroit. D'ailleurs, il y a encore des touristes qui y vont, ça m'étonne toujours, mais souvent, on trouve des corps décapités dans la rue à Acapulco. Il y a de plus en plus de fusillades également dans le Yucatan, près de Cancun. Donc, c'est vraiment répandu dans tout le pays. Et ce qui est assez fascinant aussi, c'est que c'est comme une nébuleuse qui est toujours en mouvement. Il y a des États qui vont être assez tranquilles à une période et 3 mois plus tard, ça change complètement. C'est ce qui rend, je crois, encore la chose plus difficile à cerner. Et c'est pour ça que j'aime bien décrire cette violence comme quelque chose de... Ben, en fait, je la décris pas. J'ai justement la difficulté à la décrire parce qu'elle est pluriforme. Elle se manifeste de façon sournoise à différents individus. C'est difficile de savoir qui est derrière tout ça. Il y a plusieurs individus, plusieurs groupes d'individus qui sont derrière cette violence. C'est pas, on résume trop facilement le problème de la violence au Mexique au narcotrafic et ça va beaucoup plus loin que ça.
Quand vous parlez de Ciudad Juárez, il y a, je pense que c'est le vieil avocat que vous suivez à un moment donné qui parle de notables qui faisaient de fait des excursions de chasse pour, on dirait nous autres, pour le kick. Descendre des femmes sur la rue, cette image-là, c'est une image très troublante, hein, parce que il n'y a rien qui justifie une attitude comme ça.
Non, ça dépasse l'entendement. C'est une cruauté qui est difficile à... c'est d'ailleurs une question qu'on me demande souvent, puis j'ai pas de réponse quand on me demande d'où vient cette violence, comment...
Mais je pense que c'est la force de votre film de ne pas donner de réponse, mais de s'intéresser principalement aux gens. Et finalement, bon, ce qu'on peut avoir en tête, c'est que ces gens qui sont touchés sont les plus démunis. Et ça aussi, dans votre film, c'est troublant lorsque les personnages nous mentionnent, vous savez, ils n'ont pas le choix, ces femmes-là doivent parcourir 1 heure et demie, parfois, je veux dire, à pied pour se rendre au travail, et uniquement pour nourrir leurs 2, 3, 4 enfants, et finalement, ils deviennent des bêtes, je veux dire, à prostitution ou à toutes les ordres, puis par la suite, c'est les enfants qui risquent d'y passer. Donc, il y a un cercle vicieux qui s'installe à travers ce Mexique qui laisse peu de chance aux gens plus démunis de s'en sortir dans certains cas.
C'est sûr que moi, la raison pour laquelle, entre autres, j'aime pas essayer d'analyser ou d'apporter ces réponses-là, c'est parce que, premièrement, je suis pas journaliste, je suis ni sociologue, anthropologue, et je suis pas mexicain. Mm-hmm. J'y vis pas à l'année, même si j'y passe beaucoup de temps. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on voit effectivement des phénomènes de violence qui touchent de certaines classes sociales en particulier. Et je pense qu'on peut constater que le développement des villes, facilite aussi cette violence. Ça, c'est quelque chose, mm-hmm. c'est pas moi qui le dis, hein, ça fait des années, Sergio González Rodríguez le disait il y a 20 ans, que ce soit sur la Juárez, où les femmes vont travailler de jour comme de nuit, doivent faire une heure d'autobus, comme vous l'avez dit, et traverser des fois des terrains vagues dans des zones qui sont sous le contrôle des fois de bandes criminelles. Mais c'est la même chose ailleurs au Mexique. On parlait des Catepec, cette banlieue de Mexico. C'est comme une ville qui n'est pas faite pour les êtres humains. Rien n'est fait pour que les gens se déplacent. C'est comme tout est enclavé, il n'y a pas moyen de se déplacer. Et beaucoup de gens... si on prend par exemple... beaucoup de gens ont vu le film Roma. Cette femme, cette bonne à tout faire, la femme de ménage, qui est le rôle principal, elle vit, je crois, à Ecatepec, ou en tout cas dans cette banlieue, pas loin de cette banlieue de Mexico. Mais c'est le lot de toutes ces femmes aujourd'hui au Mexique qui vont travailler chez les classes moyennes et plus aisées et qui doivent faire des fois jusqu'à 2 heures aller pour aller sur leur lieu de travail et qui vivent dans des banlieues sinistres. Donc vous imaginez partir le matin à 4 heures le matin ou revenir à. Bon. Donc il y a tout ça aussi, c'est le développement des villes et de la société qui facilite cette violence aussi.
Mais c'est comme le film le dit bien, c'est les femmes qui sont comme au premier rang, toujours. D'ailleurs, le film qui utilise beaucoup les témoignages, essentiellement comme démarche, c'est beaucoup des femmes, mais des mères qui nous parlent de leurs filles qu'elles ont perdues de vue soudainement un jour, et le deuil qui s'installe dans la famille...
Je pense qu'on a essayé autant que possible de donner la voix aux femmes dans le film. Déjà parce que l'idée de base, c'était, comme je l'ai dit au début, de parler des féminicides. C'était ma première idée. Et après, donc, on a élargi. Mais je ne sais pas, c'était un souci de les garder au centre du film. Parce que aussi, de voir... Elles portent la lutte, c'est sûr... Je ne dis pas que les pères sont toujours absents, mais les groupes de femmes, ce sont les premiers à se lever.
Mais dans votre démarche, il y a à l'évidence un geste de solidarité explicite, là, parce que, ne serait-ce que par le fait que vous ne donnez pas la parole à des officiels. Il n'y a pas un sociologue qui analyse la situation ou un homme politique qui se prétend de gauche qui va dénoncer... C'est les gens qui paient de leur personne cette espèce de maladie qui habite le pays.
Ouais, mais je crois qu'effectivement, dans le film, ce qui est particulier, je crois, au film, c'est que tous les personnages qu'on voit dans le film, d'une façon, à un degré divers, disons, sont en danger. Mmh. Donc même quand il y a un avocat qui parle, quand il y a un journaliste qui parle, ils sont en danger. Mmh. Certains plus que d'autres, mais tous ont reçu des menaces et tous sont encore menacés à l'heure où on se parle. Puis après, j'ai pas voulu donner la parole à des... par exemple, beaucoup de films qui traitent de la violence au Mexique donnent la parole aux tueurs. Là, c'est quelque chose qui m'échappe. Je comprends pas vraiment pourquoi. Je vois pas l'intérêt. C'est personnel, mais je... De toute façon, même un responsable du gouvernement, qu'est-ce qu'il nous aurait dit de plus que ce qu'on voit... Donc, on n'a pas cherché à faire d'entrevue avec ces gens-là. Puis je voulais pas rentrer non plus dans cette analyse sociologique où je pense qu'elle transpire d'elle-même. Les gens après ça feront leur lecture à côté du film, c'est ce que j'espère.
Mais on sent bien sûr la peur chez ces gens-là, mais on sent aussi leur volonté de parler. Parce qu'ils mentionnent à l'écran qu'ils sont poursuivis, mais c'est comme si... Il y avait quelque chose à dire malgré tout, malgré la crainte d'être tué. C'était clair chez vous que, pas que c'était facile de le faire, mais qu'il y avait matière ici à un documentaire, et un documentaire principalement sur la parole?
Non, je sais pas, comme je suis quelqu'un qui doute beaucoup, je peux pas dire que je le savais. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ces gens-là, comme vous l'avez dit, ils veulent parler, ils voulaient parler, ça je l'ai senti. Ça ne veut pas dire pour autant que c'était facile, parce qu'il a fallu établir une confiance. La chance qu'on a en documentaire, même si on a très peu de moyens, mais en tout cas, si on sacrifie tout ce qu'on a, c'est de pouvoir passer beaucoup de temps sur le terrain, puis d'établir cette confiance. Parce que les gens, à prime abord, souvent, ils se demandaient, je crois, bon, c'est un autre étranger, qu'est-ce qu'il va raconter de ma vie, de mon histoire ou de ma fille disparue. Donc, il fallait les convaincre de nos intentions. Mais une fois que ça s'est établi, mais tout ça, c'était un travail de longue haleine où des membres de l'équipe m'ont aidé. Ça veut dire écrire plusieurs fois par semaine des courriels à ces gens-là, des fois au téléphone, on est allé les voir. Moi, j'ai, enfin, pas, pas juste moi d'ailleurs, mais des fois j'étais accompagné, mais on les a tous rencontrés, à part quelques exceptions, avant le tournage. Mmh. On est allé sur les lieux. Il y a tous les lieux, on les a visités, sauf un. Parce qu'il est beaucoup trop dangereux. Mais, ouais,
même ceux qui étaient dangereux.
Il y en a un, c'est un lieu où je pense qu'on n'y va qu'une fois. C'est l'état de Tamaulipas, où les migrants ont été massacrés en 2010, si je ne me trompe pas. Donc là, on n'a été que pour le tournage et très peu de temps. Mais sinon, non, on a été quand même rencontrer les gens. Et donc, ça a facilité beaucoup. Ils ont vu le sérieux aussi de notre démarche. Je pense qu'ils ont...
Mais c'est un tournage qui s'est étendu sur une longue période?
Non, pas tout à fait. Le budget était quand même... C'est un film indépendant. Je tenais à le produire moi-même. Donc, on n'avait pas des moyens illimités. Mais disons que sur une période de 3 mois, on a fait le principal du... Il y a exactement 2 ans, en fait, on commençait à tourner. Mmh. Jusqu'en novembre, à peu près 2017. Le gros du tournage a été fait là. Après ça, il y a eu de la recherche avant et après. On est retourné pour des petits tournages complémentaires, mais le gros, c'est allé sur...
Guy a évoqué le noir et blanc. Ça, c'était un choix de départ qu'on tourne en noir et blanc?
Oui, c'est vraiment... Je veux pas que ça paraisse prétentieux, mais pour moi, c'est un peu... C'était intuitif. C'est pas... Je me suis pas dit, tiens, je vais faire un film en noir et blanc sur la violence au Mexique. Déjà, j'aime beaucoup le noir et blanc. Je trouve qu'on ne fait pas assez de films en noir et blanc.
Peut-être un peu de photos, je pense.
J'aime beaucoup faire de la photo en noir et blanc. J'ai beaucoup voyagé au Mexique en faisant de la photo. Et aussi, je crois qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent l'expliquer, mais je crois qu'inconsciemment, j'ai été beaucoup inspiré par les grands maîtres de la photo du Mexique. Donc, à chaque fois que j'avais l'occasion d'aller à Mexico, par exemple, je ne ratais jamais une expo photo de ces photographes du 20e siècle qui ont beaucoup photographié le pays en noir et blanc. Donc, nécessairement, ça a dû un peu forger mon imaginaire mexicain en noir et blanc. Après, je me suis rendu compte aussi qu'en enlevant la couleur, on enlevait une part d'exotisme. Mais ça, c'était important pour moi de se concentrer sur les personnages et non pas sur les détails autour.
Là, parce que la problématique parfois avec le Mexique, c'est que c'est tellement beau qu'on peut être envoûté par ces rouges, ces jaunes et tout, et qu'on ne regarde pas ce qu'il y a derrière. Et le noir et blanc nous permet, dans ce cas-ci, d'aller un peu derrière l'image de façade, puis de la rendre presque intemporelle également.
Non, tout à fait. Ça, le côté intemporel, c'est quelque chose qu'on a souvent souligné, qu'on m'a dit, auquel je n'avais pas pensé, mais c'est vrai que ça apporte cette notion-là, qui est importante, parce qu'on parle d'événements qui se sont passés du début des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Et après, c'est vrai que ça y a toujours un piège, surtout quand on est un étranger, de faire des photos au Mexique, parce que à cause des couleurs, à cause de la beauté des paysages. D'ailleurs, il y a une anecdote intéressante, mais un des deux directeurs photo, Ernesto Pardo, qui est celui qui est d'origine mexicaine, qui a fait une bonne partie des images, je pense que c'est la première fois qu'il faisait un long métrage documentaire en noir et blanc. Et donc, évidemment, le viseur de la caméra était en noir et blanc. Et il m'a dit qu'après les autres films qu'il a fait, il cadrait en noir et blanc parce que ça lui permettait de se concentrer sur autre chose que... j'imagine qu'il devait switcher une fois de temps en temps à la couleur pour voir aussi comment ça sortait, mais pour lui, c'était une autre façon de cadrer, donc j'ai trouvé ça...
Il y a trois noms à l'image dans le film. Hein. Il y a évidemment Messier Réau qu'on connaît pour son travail avec Denis Côté notamment. Le travail a commencé avec lui. Comment ça s'est passé?
En fait, il y en a trois. Parce que d'un, c'était compliqué un peu d'organiser ce tournage-là pour toutes sortes de raisons qu'on peut imaginer. Déjà, la durée, quand même, ça demandait de la disponibilité. Ernesto, depuis le départ, était engagé dans le projet. J'avais vu le très beau film qu'il avait fait de sa compagne La Tempestade, qui avait été présenté à Montréal, je pense, au RIDM il y a quelques années. Et dès que j'ai vu ça, j'en suis sorti un peu sonné, puis je me suis dit, faut que je trouve ce type. Et il a accepté tout de suite. François, ça s'est fait un peu plus tard, et je ne le connaissais pas du tout. Et ça a été une autre rencontre fabuleuse, parce que les deux sont devenus des comparses, des amis, avec qui c'était très, très facile de travailler. J'aimais cette façon de... Très rarement au tournage, on avait à se parler. C'était très peu de mots, en fait. On se regardait, puis on se comprenait. Il y a aussi un troisième, effectivement, c'est Orion Zidel, qui a fait une petite partie, qui est venue, justement, je dirais, peut-être dépanner entre les deux, qui a fait une part moins importante, mais qui est venue quand même une petite semaine à Mexico, qui est un gars d'ici, également.
Et vous avez monté à Montréal?
Oui, On a tout fait le montage à Montréal, dans les studios de l'ONF avec Hope Folia. Montage, si le tournage a été dur, si la recherche a été dure.
Le montage et tout. L'enfer, hein?
Une torture. Ben, je pense que tous les documentaristes disent, ben, pas tous, mais beaucoup disent ça, mais pour ce film. Intellectuellement, vraiment, je rentrais épuisé là, le soir. Parce que
Donc, ça veut dire que parce que c'est en 6 parties, 6 chapitres, est-ce que c'était dans le scénario d'origine ou c'est avec le montage que vous êtes dit, j'ai pas le choix, là, il faut qu'il y ait une certaine progression dramatique, narrative, puis qu'on va l'annoncer par ce segment?
Non, en fait, c'est vraiment très fidèle à ce que j'avais écrit il y a 4 ans, peut-être la première fois. Même des fois, c'est un peu étonnant. Je l'ai relu par après et j'ai été surpris de voir que tout était à peu près dans le même ordre. Alors, c'est sûr, les personnages, c'est pas tout à fait les mêmes, mais évidemment, j'ai pas essayé de faire jouer ce qui était là, ce qu'on avait écrit, mais je pense que on avait une idée très claire de ce qu'on voulait faire et que donc ça s'est pas improvisé. Après le montage, ce qui était complexe, c'est ce qui a demandé beaucoup de travail à Aube et moi, puis à ceux et celles qui nous ont aidés, parce que d'autres gens nous ont aidés. Ça a été de choisir les bons personnages, puis de raconter ces histoires-là, parce qu'on raconte des histoires complexes. Puis c'est pas dans notre langue. Aube, c'est incroyable, elle a appris l'espagnol en faisant le montage. Moi, ça me c'était fascinant.
Et ce qui est aussi, moi, qui m'a frappé beaucoup dans votre montage, c'est que ces personnages qui nous racontent des histoires très, très dures, dans un cadre très, très serré, viennent par finalement un peu se libérer par le montage. Parce que vous allez avec vos plans de coupe où c'est plus vaste. Et c'est comme s'il y avait des respirations, je veux dire, par le montage. Hein. Donc là, on est pris par un sujet qui est captivant. Et là, hop, on a un plan de coupe où là, on voit la ville, où on va parfois filmer bon, quelques détails, on revient sur eux. Donc il y a vraiment toute une courbe dramatique, je veux dire, qui s'installe et qui permet, je pense, aux spectateurs de pouvoir respirer même.
Tout à fait, puis c'est là que le travail de Aube prend tout son sens. Puis je dirais aussi également, on avait un souci, au montage aussi, mais dès le tournage, comme on l'a dit, c'est un pays que j'aime et que nous aimons, je voulais que ça se sente. Je voulais pas faire qu'un portrait triste et même si c'est très noir, mais je voulais qu'il y ait une certaine beauté qui se dégage du Mexique quand même. Que ça soit déjà juste dans les personnages, mais aussi à travers ça, montrer qu'on ne soit pas juste dans l'horreur absolue.
Je sais qu'il y a une grande sortie mexicaine on est à la veille d'y arriver. Mais est-ce qu'il y a déjà des auditoires mexicains qui ont vu le film?
Pardon, oui. On a présenté le film, il y a eu au moins une trentaine de représentations depuis février. Des fois dans des salles de 1500 personnes, c'était des moments inoubliables. Et la réaction, c'est sûr que j'étais très nerveux au départ en allant présenter le film là-bas, mais ça s'est super bien passé. Là, je suis très fébrile à l'approche de la sortie au Mexique. Évidemment, là, le film sort à Montréal depuis hier, mais au Mexique, évidemment, c'est à travers tout le pays. Dans plusieurs salles commerciales, j'ai très hâte de voir comment les gens vont réagir.
Il va être projeté dans les États qui sont couverts par...
On a beaucoup parlé des Catépec, à ma grande surprise et à ma grande joie, j'ai vu cette semaine la liste des cinémas qui ont été, de certains, qui ont choisi de présenter le film, parce que la liste n'est pas complète encore, mais il y a une chaîne commerciale qui a un complexe de cinéma à Ecatépec, donc en plein cœur de cette banlieue sinistre, et le film va être présenté là, donc moi, ça c'est pour moi, c'est
et
formidable.
Veracruz
aussi, pareil, il y a une autre chaîne, parce qu'il y a deux chaînes qui sont impliquées dans la distribution, qui a un cinéma à Jalapa, la capitale de l'État de Veracruz, dont il est beaucoup question dans le film, et le film va être présenté à Jalapa. Alors ça c'est certain. Puis après, je sais qu'il va être présenté aussi dans les petits cinémas, les cinémathèques, les salles indépendantes de tout le pays.
Une question personnelle. Je sais que vous avez un peu découvert, un des projets qui vous a incité à aller au Mexique était d'aller visiter les lieux où Buñuel avait écrit certains de ses films. Et quand je regarde ce film-là, j'ai l'impression que c'est aussi un hommage au documentaire de Buñuel. Est-ce que ça vous traverse un peu l'esprit ou non?
Jamais j'aurais osé, mais
non,
c'est
mais
plus beau qu'on
mais il y a certains plans qui ressemblent étrangement à ce que Buñuel avait fait avec
Non, mais c'est, je le prends comme un très grand compliment. Pour moi, Buñuel, c'est un modèle depuis que je suis tout jeune. En fait, c'est un peu un hasard des choses parce que je pense que j'ai commencé à découvrir Buñuel quand j'avais 15-16 ans. En fait, je pense que quand j'ai vu certains de ses films, je me disais, ah oui, ok, donc c'est possible de faire ça au cinéma. Donc, donc ça a été vraiment. Mais jamais j'aurais cru. D'ailleurs, à l'époque, je ne savais même pas qu'il avait vécu au Mexique. Je le découvrais. J'ai surtout découvert dans ses films français au départ, puis ses premiers courts-métrages. Donc là, c'est un peu comme de retourner un peu sur ses pas sans même que c'était vraiment. Buñuel aimerait sûrement que je dise que c'était dans mon inconscient. Mais.
Effectivement.
Mais oui, j'étais parti avec des amis il y a quelques années à la recherche d'un hôtel complètement perdu dans les montagnes de l'État du Michoacán où il allait écrire ses scénarios avec Jean-Claude Carrière. On l'a trouvé, mais ça a été une épopée formidable.
Il existe toujours?
Non, mais il est complètement à l'abandon depuis. Nous, on ne le savait pas. On pensait, nous, on rêvait de boire un dry martini au bar de l'hôtel, il était à l'abandon.
Vous aviez la recette avec vous, Jean.
Bien sûr.
Donc, on rappelle qu'aujourd'hui, au cinéma moderne, hein, il y a aussi un vernissage d'une exposition de photos et présentation du film. Je pense que c'est en présence de l'équipe.
Bien sûr.
Et également, demain, à la Cinémathèque québécoise, vous serez sur place avec Aube Fouglia pour parler du film. Et bon, pour les gens qui n'ont pas le temps d'aller le voir demain ou finalement aujourd'hui, ben, le film est bien sûr Cinéma du Parc, Cinéma Beaupierre.
Oui, tout le week-end, tout le film est là. Oui.
Puis il fallait le voir. Un documentaire, il fallait le voir la première semaine. Et parce que, je veux dire, premièrement, c'est un film essentiel. Donc, on incite les gens à le voir. Puis il faut qu'il dure plus qu'une semaine, bien sûr.
Ben oui.
C'est un formidable départ pour la saison d'automne. Hein.
Merci beaucoup, Julien Élie.
Un plaisir.
Noir.
Merci.